L'Institut Montparnasse est un think and learn tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur notre podcast, parmi ceux-ci des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques, de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société, et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Soma Klimpagdi, enseignante-chercheuse en philosophie du droit. Avec elle, nous aborderons la façon dont les communs peuvent transformer notre rapport à la santé, à l'alimentation et au territoire. Bonjour Soma.
Bonjour Florian.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Eh bien, vous m'avez déjà présenté en partie. Je suis effectivement philosophe du droit. J'ai essentiellement interrogé la question des communs sous l'angle du droit pénal international. Et mon sujet phare pendant des années était la question de la renouvelabilité de la ressource en eau. Et je suis également très engagée sur les questions de l'économie sociale et solidaire, aussi bien l'alimentation que la réparation, le réemploi et d'autres sujets.
Alors en échangeant avec vous, la notion de commun et leur impact sur la protection sociale est apparue rapidement. Qu'est-ce qui vous a amené à explorer ces thématiques ?
Eh bien, aujourd'hui, la protection sociale, on entend bien que c'est à la fois un enjeu personnel, c'est-à-dire en termes de prévention de risques, mais que nous ne pouvons y répondre qu'en nous organisant en tant que communauté. Et donc, c'est en cela que c'est en lien avec la notion des communs. Et cela permet aujourd'hui de pouvoir penser une prise en charge collective de la fragilité du vivant.
Comment distinguer les communs des biens communs ?
Alors, ce qu'on appelle le bien commun, donc au singulier, c'est dans le langage courant les modalités que nous avons de vivre ensemble de telle sorte à le faire de manière apaisée. Et les biens communs, eh bien, ce sont des ressources, des biens qui devraient être accessibles et dont on devrait pouvoir, en termes de droit, garantir l'accès à toutes et tous. Mais il n'y a aucun enjeu de gouvernance. Et la question des communs, elle est plus délicate. En réalité, c'est un triptyque qui se fonde évidemment sur une ressource partagée qu'on pourrait penser comme une propriété partagée, indivisible, qui est en lien avec une communauté de parties prenantes et qui décide ensemble, qui co-définit les modes de gestion de telle sorte à ce que ce soit soutenable et accessible pour chacune et chacun des parties prenantes de la communauté, pour celles qui sont déjà là et également les générations futures.
Elinor Ostrom a été une figure clé dans la redéfinition des communs. Vous pouvez nous rappeler son apport principal ?
Alors, Elinor Ostrom a beaucoup fait parler de l'histoire des communs pour une raison toute simple, puisqu'elle a été prix Nobel en 2009. Et c'est vraiment important d'avoir pu mettre en avant que les communs et la manière dont les communautés de parties prenantes géraient penser la ressource de manière durable et soutenable. Elle existe partout dans le monde et depuis très longtemps dans l'histoire. Et la grande difficulté que l'on a aujourd'hui à saisir, c'est que Elinor Ostrom et ses collègues ont beaucoup travaillé ailleurs dans le monde et très peu en Europe et dans les pays du Nord, pour le dire un petit peu vite. Et nous sommes en train de dépasser, c'est-à-dire ce que a pu mettre à jour Elinor Ostrom, qui a été un apport absolument fondamental, c'est qu'en réalité, des modes de gestion des communs existent toujours, ne serait-ce qu'en France, dans ce qu'on appelle les sections de communes, les consortages, et parfois même ça n'emporte pas du tout le nom. Je pense par exemple aux associations syndicales libres de gestion des eaux, par exemple dans le Morvan, où il y a des communs qui continuent à perdurer et qui ne s'appellent pas comme ça. Et donc, un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, nous aussi, nous faisons des communs sans le savoir. Je m'appuie évidemment beaucoup sur les travaux d'Elinor Ostrom, mais en France, nous avons également la chance d'avoir deux penseurs des communs qui sont contemporains et qui continuent à beaucoup écrire sur ces questions. Je pense à Pierre Dardot et à Christian Laval, le premier philosophe, le second est sociologue, et entre autres, ils ont écrit un ouvrage qui, pour moi, a été vraiment important dans le cadre de mon parcours intellectuel et universitaire, c'est « Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle ».
Les communs sont souvent associés aux ressources naturelles. Comment est-ce qu'on pourrait les définir ? Et puis, en quoi cette approche, elle peut aussi s'appliquer à la santé et l'alimentation ?
Oui. Alors, en effet, les communs sont souvent associés aux ressources naturelles, par exemple à l'eau. Et la problématique, c'est qu'un bien commun n'est pas un commun en soi. Il n'y a pas la possibilité d'essentialiser les communs. C'est vraiment la question de la gouvernance, le dialogue qu'il va y avoir avec possiblement des conflits d'usage et donc la possibilité de nous organiser qui font qu'un commun est un commun et pas juste un bien commun. Et donc pourquoi penser la santé et l'alimentation sous l'angle des communs? Eh bien parce que personne, en tant que mangeuse ou mangeur, n'est autonome de manière totale dans son alimentation depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et on sait que le fait alimentaire est un fait social total qui nous concerne toutes et tous en tant que vivants. Il engage plusieurs dimensions de notre être, évidemment nutritionnelles et donc physiques, mais également psychiques, avec le plaisir de manger qui est important. Aussi, manger ne se fait pas seul. On mange avec des collègues, avec des amis, en famille. Et puis, il y a la question des droits culturels autour de la question de l'alimentation. Et l'alimentation est un des facteurs clés de la pleine santé. Et donc, une fois qu'on comprend tout cela et comment est-ce que ça s'articule, eh bien, on voit bien que l'alimentation et la santé sont un commun. Ça, c'est la première des choses. Mais en plus, sans cette pleine santé, comment garantir au mieux l'utilité sociale de chacune et de chacun d'entre nous? Être en forme, être en bonne santé, c'est aussi la possibilité de travailler à la fois pour soi, mais aussi pour l'ensemble de la société. Et ce sentiment d'utilité sociale est aussi important sur les facteurs clés de la santé.
Une question me brûle la langue. Alors, le savoir et les numériques, commun ou bien commun?
Eh bien, comme je le disais, la question des biens communs ne pose pas la question de la gouvernance. Et donc, peut-être que je vais m'arrêter une seconde pour faire la distinction entre ce qu'on appelle les communs rivaux et les communs non-rivaux. Un commun rival, eh bien, c'est par exemple un verre d'eau que j'ai sur la table. Quand je le bois, cette eau eh bien, n'est plus biodisponible pour les personnes qui sont autour de moi, en tout cas dans l'instant. Alors que dans le cadre du savoir, si moi je puise dans cette ressource, en réalité, elle n'est pas moins accessible aux autres. Et j'aime beaucoup... cette citation qu'on attribue à Jefferson, c'est « Lorsque deux personnes se rencontrent dans la rue et qu'elles échangent un dollar, elles repartent chacune avec un dollar. Quand deux personnes se rencontrent dans la rue et qu'elles échangent une idée, elles repartent au moins chacune avec deux idées. » Et donc, autour des communs rivaux, non rivaux, il y a déjà ça à comprendre. Ensuite, pour que le savoir et le numérique soient en commun, eh bien, c'est qu'est-ce que nous en faisons? Et la question devient éminemment politique au sens... grec du terme et étymologique, ça devient l'affaire de la cité. Ce qui est peut-être aussi assez intéressant pour comprendre aujourd'hui les enjeux autour du numérique et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est le traitement de ce qu'on appelle les métadonnées et donc des informations. Et je me dis souvent que si on traduisait vraiment le terme intelligence en anglais ne veut pas dire intelligence, il veut dire information. Donc on comprend bien que si on traduisait par artificial intelligence par information artificielle, il n'y aurait peut-être pas le même imaginaire derrière. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde, c'est que ce qui distingue les informations et les connaissances, c'est que les connaissances, en fait, c'est une capacité à prioriser et à hiérarchiser les informations. Elles n'arrivent pas toutes au même niveau. Et le terme de connaissance en étymologie est très intéressant, puisqu'ils viennent de cum natura, qui veut dire littéralement naître ensemble. Et donc une connaissance, un savoir, c'est une information hiérarchisée qui nous permet de naître ensemble, à nous-mêmes en tant que corps social, qui reconnaît notre légitimité dans la construction de cette connaissance. Et donc connaissance, reconnaissance sont liées. Et donc comment penser le savoir et le numérique comme un commun? Eh bien, c'est vraiment une question de gouvernance. Comment est-ce que nous décidons et quelles sont les parties prenantes, quelle est leur place et leur possibilité d'apporter leur voix et leur souhait dans la manière dont ces savoirs et ces outils numériques sont utilisés, quelles sont leurs vocations et quels en sont leurs objectifs.
Ici, nous sommes à la MGEN, donc j'ai une petite question sur la sécurité sociale. Vous savez qu'elle repose sur une logique de solidarité collective. Est-ce qu'on peut dire qu'elle administre la santé comme un commun ?
Alors, pour cela, je vais m'appuyer sur les travaux de l'économiste et historien de la santé Nicolas Da Silva, qui a publié un livre en 2023 qui s'appelle « La bataille de la sécu ». Et Nicolas Da Silva distingue vraiment deux périodes de ce qu'on appelle le régime général. C'est la sociale, qui se situe au moment de la création du régime général et qui dure jusque 1967, et ce qu'aujourd'hui il appelle l'état social, et qui sont deux choses bien distinctes. Ce qu'a été l'administration de la santé durant la sociale, c'était très clairement un commun, puisque c'était les parties prenantes qui décidaient ensemble comment est-ce qu'ils allaient gérer les ressources qu'ils mettaient en commun. Peut-être quelque chose d'important à comprendre et qui est bien explicité dans le livre de Nicolas Da Silva, c'est que souvent dans l'imaginaire collectif, on se dit que la sécurité sociale, c'est surtout un moyen de solvabiliser la patientèle et donc de lui permettre d'accéder à des soins. Mais en réalité, pour garantir l'accès aux soins de santé, c'est que nous avons mis sous sécurité sociale la production de soins. Et c'est comme ça, par exemple, que sont nés les centres hospitaliers universitaires. C'était porté par des travailleuses et travailleurs syndiqués. À ce moment-là de la création de la sécurité sociale, c'était 75% des travailleurs et 25% du patronat, ce qui semble déjà plutôt cohérent parce que dans la vie, vous admettrez qu'on rencontre quand même plus souvent des salariés que des patrons. Et ils avaient donc la possibilité de décider ensemble qu'est-ce qu'ils allaient conventionner, qu'est-ce qu'ils allaient prendre en charge, et comment est-ce qu'ils allaient orienter leurs moyens et définir ensemble des politiques de santé. Et donc là, à ce moment-là, c'est une certitude. La santé était administrée, gouvernée comme un commun. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas ? La place des travailleuses et des travailleurs est bien moindre. Ils définissent bien peu les politiques publiques de santé. On est parfois dans des approches que je qualifierais plutôt de sanitaires plutôt que des politiques de pleine santé. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui des intérêts qui ne sont plus celles et ceux des personnes qui, elles, visent à la pleine santé. Et donc, aujourd'hui, ça n'est plus suffisamment organisé comme un commun.
Alors ça m'amène naturellement à la question suivante. L'État intervient de plus en plus dans la gouvernance de la sécurité sociale. Comment voyez-vous l'avenir d'une santé comme bien commun ?
Je me dis que ça peut être bien là de prendre le temps de définir ce que c'est que la santé, sous une définition qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS. C'est que la santé n'est pas l'absence de handicap ni de maladie, c'est un sentiment de bien-être général à la fois physique, mental, social et environnemental. Et donc, penser la santé comme un bien commun, c'est absolument important pour deux raisons principales. La première, c'est qu'une personne seule, comme pour le fait alimentaire, ne peut pas garantir sa santé seule. C'est toujours en lien avec les autres. Donc ça, c'est le premier des faits. Et la seconde, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait état, et je tiens à insister sur cette notion de ce qui fait état, n'est pas en capacité, tel qu'il est organisé, de penser la santé comme un commun, en tout cas de le gouverner comme tel. Un des enjeux aussi aujourd'hui, c'est de saisir à quel point la santé, que nous considérons en France comme un droit, et qui est l'héritage d'une longue lutte, en réalité, une lutte sociale, c'est-à-dire entre des gens qui n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts, sachant qu'avoir des intérêts divergents, avoir des conflits d'usage, c'est le cœur même de ce qu'on appelle les communs. Par contre, c'est mis en discussion et c'est le dialogue, c'est la rencontre, c'est le débat qui va permettre de définir quels sont les ordres de priorité. La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'État tel qu'il est organisé par rapport au projet de sécurité sociale laisse de moins en moins de place aux personnes concernées. Je pense, par exemple, les différents organismes de santé, que ce soit par exemple la CAF, donc la branche famille de la sécurité sociale. Certes, il y a une place pour les familles, mais quid des enfants, par exemple. Quand on parle de la CARSAT et donc des retraites, quelle place, évidemment, pour nos aînés qui sont déjà à la retraite, mais on aurait besoin de le penser de manière cohérente avec celles et ceux qui travaillent encore, puisque c'est eux qui assurent, puisque nous sommes sur un système de répartition des retraites avec la population active. Et donc, on pourrait vraiment dérouler cela, et est-ce que l'État, en tant que représentant, est la personne la plus légitime à porter la voix des personnes concernées? Eh bien, c'est une question que moi, j'ai envie de poser, sans y donner une réponse tout de suite, mais on voit bien que c'est peu probable pour deux raisons principales, même si on peut souvent se plaindre que nos gouvernants sont plutôt des personnes parmi nos aînés. De fait, ils ne sont pas à la retraite. Et puisque je posais la question des enfants, non, nos gouvernants ne sont pas des enfants. Donc, quelle place pour les personnes concernées? Je pense que c'est important au moins de l'interroger pour le comprendre comme un commun.
Et sur le sujet de la santé communautaire, pourquoi est-ce qu'elle est essentielle pour faire vivre la santé comme un commun?
Alors, l'histoire de la santé communautaire, c'est très intéressant parce que ça vient puiser dans la longue histoire de la mutualité française qui a été la source d'inspiration et la convergence en fait, de tous ces systèmes de caisses de secours mutuelles où des gens, tous les mois, décident de mettre de l'argent ensemble dans un pot commun. Ils ne savent pas à qui ça va servir, ils ne savent pas à quoi ça va servir, ils ne savent pas quand ça va servir, ni comment est-ce qu'ils vont le mettre en place. Mais ils ont la conviction profonde que quelle que soit la question de l'accident, de la vieillesse, de la parentalité, eh bien c'est ensemble qu'ils vont pouvoir y répondre. Et c'est parce qu'ils vont être dans la solidarité et une forme de cohérence et de cohésion sociale qu'ils vont lutter contre les phénomènes de précarité qui sont des risques individuels. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Et les centres de santé communautaire ont une capacité d'innovation, plutôt même plus que d'innovation, de créativité pour penser la question de la santé. Je pense à, en particulier au village de santé qui se trouve à Échirolles, qui est une banlieue de la ville de Grenoble. Eh bien, là, il y a évidemment deux généralistes, mais également un orthophoniste. Et figurez-vous qu'il y a aussi un coiffeur. Et c'est parce que c'est dans la vie du quartier qu'ils ont mis en place. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui participerait de notre pleine santé? Il y a évidemment la production de soins de santé, mais pas que. Et ce qui est très intéressant, parce qu'il fonctionne vraiment sur des outils d'intelligence collective, il a été fait mention tout à l'heure de gouvernance partagée, et ils vont jusqu'à ne pas avoir de femmes de ménage, que ce sont tous les travailleurs du centre de santé communautaire qui y contribuent. Et ils considèrent que la personne qui gère les rendez-vous et qui est à l'accueil est tout aussi importante, ni plus ni moins, en fait, en tout cas à égale dignité d'importance, que le médecin, que l'orthophoniste. Et ils ont toutes et tous le même salaire et ce sont des choses qu'ils discutent ensemble. Et tout l'argent qu'il reste au sein de la communauté, eh bien là, c'est encore une fois comme un commun, ils décident comment réorienter. Et je pense à une seconde dynamique autour des centres de santé communautaires, c'est aujourd'hui il existe un réseau de santé intégrative où on a une approche avec des pratiques qui sont complémentaires à la santé, donc je dis bien complémentaires et non pas alternatives, qui permettent en fait de prendre en charge, selon la définition de l'OMS, ce sentiment de bien-être qui n'est pas que physique et mental, qui est également social, environnemental. Et donc d'avoir des approches autour de l'hypnothérapie, de l'aromathérapie, de la phytothérapie. Et je vous conseillerais vivement d'aller voir un film documentaire réalisé par Christine Bellhomme qui s'appelle « Viens voir ». Et là, on voit aussi comment ce que la santé communautaire permet, en se fondant sur l'existant et le droit, de pouvoir aller un tout petit peu plus loin que ce que nous organisons aujourd'hui. Et c'est un héritage, en fait, de notre longue histoire de la mutualité française et qui a donné ce magnifique projet qui est celui de la sécurité sociale.
Alors, vous portez le projet d'une mutuelle de l'alimentation en Alsace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle se différencie d'un simple système d'aide alimentaire?
Oui. Alors, le projet de mutuelle de l'alimentation en Alsace est très largement basé. Et il aspire en fait au projet de sécurité sociale de l'alimentation. Je sais que vous avez déjà réalisé un podcast pour expliciter ce qu'était que ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. Donc, je me propose de ne pas répondre sur qu'est-ce que c'est que la SSA pour répondre autour de la question de l'aide alimentaire. Aujourd'hui, l'aide alimentaire, avant d'expliciter et d'entrer un peu de pourquoi est-ce que ce sont des logiques de charité et pourquoi est-ce que le projet de sécurité sociale de l'alimentation et donc le projet de mutuelle de l'alimentation est une proposition qui se veut solidaire, je me dis que ça peut être assez intéressant d'avoir aussi une histoire de ce que l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, il faut quand même faire encore un pas de côté sur les systèmes alimentaires. Donc les systèmes alimentaires, c'est production, transformation, distribution, lutte, consommation, et ce qu'on appelle les grandes surfaces, jusqu'au moment de la loi Garot en 2016, qui a créé un lien entre lutte contre le gaspillage alimentaire et aide alimentaire, 30% du frais pouvait partir à la poubelle et le modèle économique fonctionnait. Qu'est-ce que c'est que le frais ? Eh bien, c'est le pain, la viande, le poisson, les produits laitiers, les œufs, les fruits et légumes. Donc, c'est l'essentiel de notre alimentation finissait à la poubelle. Et on a tous entendu parler de ces scandales où les poubelles étaient arrosées d'eau de Javel pour que les personnes n'aillent pas dans les poubelles pour récupérer cette alimentation. Et on peut se dire, ben, évidemment, c'est inadmissible qu'on jette de la nourriture, donc c'est plutôt une bonne chose qu'on le récupère. Sauf que cette aide alimentaire est évidemment défiscalisée. Avant, ils payaient les poubelles, donc la taxe d'ordures ménagères. Non seulement ils ont récupéré une partie de l'argent, de ce qu'ils considéraient comme une perte et qui permettait malgré tout à l'aide aux grandes et moyennes surfaces de perdurer, ça c'est la première des choses. Mais l'aide alimentaire, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas choisie par les personnes concernées, elle est subie. Donc ces personnes assignées à l'aide alimentaire deviennent la caution morale de la surproduction de l'agro-industrie. Et l'aide alimentaire, ça n'est pas un droit à l'alimentation. C'est le droit à être nourri, à ne pas souffrir de la faim, mais ça ne répond pas à votre droit à l'alimentation, puisque j'en ai déjà parlé, et comment est-ce que ça vient toucher toutes les dimensions de l'être, à la fois physique, mentale, sociale et les droits culturels. Et aujourd'hui, l'aide alimentaire, j'ai envie de vous renvoyer vers les travaux de Bénédicte Bonzi, qui a publié un livre qui s'appelle « La France qui a faim », dont le sous-titre est « Le don à l'épreuve des violences alimentaires ». Donc elle explicite que l'aide alimentaire telle qu'elle est organisée crée des violences alimentaires à la fois pour les personnes bénéficiaires, mais également pour les bénévoles qui en réalité s'engagent dans ces systèmes d'aide alimentaire parce qu'ils veulent lutter contre le système. Et très souvent, ils se rendent compte qu'ils ne luttent pas contre, ils ne résistent pas, ils viennent le renforcer malgré eux. Le projet de mutuelle de l'alimentation est totalement autre. C'est d'imaginer que nos systèmes alimentaires puissent être gouvernés comme des communs. Pour deux raisons principales, un enjeu évidemment de solidarité et de reconnaissance que nous sommes toutes et tous à des moments de notre vie dans des situations de vulnérabilité, voire de précarité alimentaire. Même les personnes qui ont une famille, qui peuvent subvenir à leurs besoins, je pense à nos jeunes lorsqu'ils deviennent étudiants, qu'ils quittent la maison, qui n'ont pas encore de salaire, qui sont en études, eh bien on voit bien qu'ils ne mangent pas de manière aussi riche et variée que quand ce sont les parents qui cuisinent et que le plat est déjà prêt. Mais on peut aussi vivre ces situations lors d'un divorce, lors d'un licenciement, également dans la vieillesse, la perte d'un conjoint. Et ces moments-là, en fait, nous les traversons tous. Et quand est-ce qu'ils sont durables et quand est-ce que c'est juste passager? Et donc, c'est de comprendre qu'autour de ces questions-là, nous sommes tous interdépendants sur la question des systèmes alimentaires. Ça, c'est la grande différence entre l'aide alimentaire et le projet de mutuelle de l'alimentation. Et surtout, comme je le disais, c'était la possibilité de reconnaître que l'alimentation, les systèmes alimentaires sont à penser comme un commun, sont à gouverner comme un commun. Pour deux autres raisons principales, c'est que lorsque l'on sait quels sont les impacts sur la santé humaine de notre alimentation, mais également aujourd'hui quels sont les impacts sur nos milieux naturels, l'alimentation est une problématique à laquelle il va falloir répondre. Ce n'est pas un problème à résoudre, mais en tout cas une problématique à poser et à interroger ensemble, et de se dire que le projet de démocratie alimentaire qu'il y a autour de la mutuelle de l'alimentation c'est vraiment cette construction de la connaissance de cause. Je sais que Maxime Scaduto, qui est doctorant et qui est très en lien avec nous, est déjà venu à l'Institut Montparnasse, qu'il a enregistré un podcast avec vous. Ça vous permettra vraiment de comprendre ce que c'est que le projet de sécurité sociale de l'alimentation et comment on se propose d'y répondre par le biais de la mutuelle. Et c'est surtout cette question de sortir de la charité, qui est encore une fois un schème de la domination, qui verse en fait dans un rapport de domination, alors que le projet de mutuelle de l'alimentation, c'est vraiment un projet solidaire, où on comprend que c'est par la coopération et l'entraide que nous pourrons relever le double défi de l'équité sociale et de la protection de notre environnement. Et peut-être juste un petit mot encore, il y a vraiment deux axes que nous développons. En fait, notre association pour une sécurité sociale d'alimentation, elle a trois objets principaux. D'abord, de porter un plaidoyer pour un droit à l'alimentation et de promouvoir le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Le deuxième objet est vraiment le prototypage de cette future mutuelle de l'alimentation. Et nous avons un troisième objet qui est la coordination, l'animation d'un programme de recherche action contributive. On reconnaît l'égale dignité des savoirs entre les savoirs pratiques et les savoirs académiques, de penser qu'autour des questions de la transition, c'est parce que nous allons authentiquement coopérer en essayant de lier théorie et pratique et de comprendre qu'il y aura toujours un écart entre les deux et que cet écart n'est pas une anomalie, c'est le fait même du vivant et que c'est notre capacité à coopérer ensemble sur un territoire, à savoir que cette coopération est non négociable, elle est à durée indéterminée, qui nous permettra de répondre à ce double défi à la fois de justice sociale et de préservation du vivant. Et donc nous nous proposons de nous doter d'une comptabilité à gestion collective qui s'inspire de la comptabilité CARE et donc de ces comptabilités qu'on appelle socio-environnementales ou des comptabilités écologiques.
Merci beaucoup pour la richesse de votre réponse. Alors ça me permet d'enchaîner naturellement. Qu'est-ce que la comptabilité CARE? Et comment cela pourrait-il s'appliquer concrètement dans un secteur spécifique, comme celui d'une mutuelle de l'alimentation, par exemple?
Alors, déjà, avant d'expliquer ce qu'est CARE, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que la comptabilité et quelles en sont ses fonctions historiques. La comptabilité, eh bien, elle a quatre fonctions. La première, c'est qu'est-ce que je veux compter, qu'est-ce que je veux prendre en compte. Ensuite, de s'en sentir comptable. Troisièmement, seulement on compte. Et enfin, c'est la manière de rendre compte. Et donc, quand on comprend ce que c'est que la comptabilité, c'est notre manière, par le biais certes des chiffres, de pouvoir rendre compte de notre rapport au monde. C'est en réalité, en termes de philosophie comptable, un rapport cosmogonique à notre milieu et à nous-mêmes. Et donc, pour bien comprendre CARE, CARE a trois capitaux. Un capital financier qu'on connaît tous, et puis deux capitaux qu'on appelle des capitaux extra-financiers, un capital social ou humain et un capital naturel ou environnemental. Juste pour qu'on puisse un petit peu saisir ce qui se passe avec la comptabilité CARE. Et là, pareil, j'enverrai vers les travaux de Jacques Richard et d'Alexandre Rambaud, et les travaux, entre autres, de l'association qui s'appelle CERCES, CERCES.org. Et donc, ça vous permettra d'aller un tout petit peu plus loin. On comprend bien que, par exemple, dans une entreprise, lorsqu'on investit un capital financier, si au bout du cycle d'exploitation, votre organisation n'est pas en capacité, enfin qu'elle a payé les salaires, les biens, les services et qu'elle les a vendus, de rembourser ce capital financier investi, l'entreprise est en train de faire faillite. Eh bien, avec les capitaux extra-financiers, c'est-à-dire le capital social ou le capital environnemental, dans le capital social, c'est par exemple la santé des travailleuses et des travailleurs. Le capital environnemental, on voit bien, c'est la question des sols, de la biodiversité, de l'eau, du climat. Si vous, dans le cycle de votre organisation et d'exploitation, vous ne permettez pas en fait de garantir le remboursement ou en tout cas la préservation de ces capitaux, eh bien ça n'est pas que votre entreprise n'est pas rentable, c'est que votre organisation et sa manière d'interagir avec à la fois le milieu social et le milieu naturel, n'est pas soutenable. Donc il y a un enjeu de double matérialité, c'est-à-dire de capable de voir que les finances, et la manière dont on rend compte, est notre lien en fait au réel. Et qu'aujourd'hui, Le PIB, qui est un indicateur important, qui est utilisé partout, est insuffisant pour rendre compte de manière qualitative l'impact qu'ont nos organisations sur le vivant ou le social. Donc la comptabilité CARE, elle se propose de prendre en compte et de lire ensemble ces deux autres capitaux qui sont des capitaux extra-financiers. Et donc, comment est-ce que nous, on pense l'utiliser au sein de la mutuelle, c'est d'aller encore un tout petit peu plus loin que juste cette comptabilité CARE qui s'organise au niveau des organisations et de la penser de manière systémique dans le cadre d'un dialogue comptable territorialisé. Donc si on reste sur les systèmes alimentaires, ce qui est notre proposition, on pourrait avoir une comptabilité à gestion collective des capitaux extra-financiers, pas juste du capital financier. Quand on pense à la coopération sur un territoire, les organisations, que ce soit les entreprises ou les associations, peuvent obtenir des fonds publics. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que ça s'organise? C'est souvent dans le cadre d'appels à projets, etc., etc. Mais en fait, on n'essaye pas de tendre ensemble vers des bons états écologiques de nos écosystèmes ou du corps social. Et donc, c'est de se dire que dans une comptabilité à gestion collective, nous aurions l'espace en fait de la gestion des communs, de gestion qui serait à la fois financière, mais également sociale et aussi environnementale. Et l'idée, c'est de pouvoir créer les conditions de ce dialogue comptable qui nous permettent en fait de définir ensemble les stratégies et surtout, et c'est ça qui est important quand on comprend ce que sont ce qu'on appelle le changement climatique et les bouleversements à venir, c'est de pouvoir piloter ensemble l'inattendu. Il y aura des effets en termes de boucles de rétroaction qui sont parfois heureux, d'autres qui seront malheureux, mais c'est bien parce que nous serons dans la conviction ensemble que c'est dans la cohérence et la coopération que nous pourrons traverser ces turbulences et ces troubles à venir que nous créons un monde à la fois solidaire, mieux juste, mais peut-être aussi de le réparer, de le restaurer chemin faisant.
Est-ce que vous avez envisagé que l'État puisse être partie prenante dans votre projet de mutuelle de l'alimentation et quel pourrait être son rôle?
Alors aujourd'hui, l'État, dans le cadre du projet de mutuelle de l'alimentation en Alsace, est une partie prenante dans le sens où nous avons des dialogues avec la DRAF, avec la DRETS, que si on continue, ce serait tout à fait intéressant d'être également en lien avec d'autres agences comme l'Agence de l'eau, l'Office français de la biodiversité, etc., etc. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la question c'est qu'est-ce qui fait État aujourd'hui? Est-ce que l'État est un outil au service des gouvernés pour s'auto-gouverner ou bien c'est un État qui impose des politiques publiques qu'il a décidées en dehors de nous de manière centralisée? Eh bien, nous en tout cas, ce que nous souhaitons organiser au niveau de la mutuelle de l'alimentation en Alsace, c'est la co-construction de la connaissance de cause de ce que sont les systèmes alimentaires et l'État y a sa place en termes de savoir, en termes de partage. Par contre, il y a un enjeu à ce que l'État reconnaisse l'égale dignité et donc de non-hiérarchie entre les savoirs et que les praticiens, comme les mangeuses et les mangeurs, j'utilise expressément ce terme pour qu'on sorte de la logique de bénéficiaire bénévole, l'État a besoin de prendre en considération les premières personnes concernées. Si on retourne sur l'histoire de l'aide alimentaire et de la précarité alimentaire, aujourd'hui l'État n'a pas, en termes de vécu expérientiel, de connaissances suffisantes de ce que c'est que la précarité alimentaire. Il est forcément dans une position de bénévole, en tout cas de personne qui va donner de l'aide alimentaire à des bénéficiaires, en tout cas la soutenir, l'accompagner, l'organiser. Et on comprend bien avec ce dont j'ai déjà parlé, à quel point l'aide alimentaire aujourd'hui est un écueil, une impasse en fait pour répondre à la fois à la question du droit à l'alimentation, qui soit universel, lié à la personne, et en plus de répondre à la transition agri-alim. Parce que autour de la transition agri-alimentaire, il y a eu assez d'études qui ont été menées et aujourd'hui personne n'est en capacité de la chiffrer. Comment est-ce que l'État pourrait être partie prenante? Eh bien, c'est absolument essentiel parce que aujourd'hui, ça ne sera pas au niveau d'un département qu'on sera autonome, résilient du point de vue de l'alimentation. Il y a des enjeux à pouvoir organiser. Et l'une des grandes difficultés aujourd'hui, en plus de cette comptabilité à gestion collective, c'est que nous savons que nos systèmes alimentaires, il y a des pratiques qu'il va falloir changer et qui ne seront pas rentables. Et la grande difficulté, c'est que justement, aujourd'hui telle qu'est organisée l'émission monétaire au niveau européen et donc français, nous ne pouvons créer de la monnaie que lorsqu'il y a déjà une forme de colonisation du futur en termes de rentabilité. Et donc, il y a des propositions aujourd'hui de chercheurs et de chercheuses sur la possibilité d'émettre une monnaie volontaire. Et là, évidemment, c'est un enjeu étatique, c'est une compétence régalienne. Ce n'est très certainement pas depuis les territoires que nous pourrons seuls le décider.
Alors, j'imagine que vous voulez aussi parler des enseignements qu'on peut tirer des travaux de Jezabel Coupet-Souberan. Et peut-être que la théorie monétaire que vous défendez peut transformer notre rapport au commun. Est-ce que vous voulez nous en parler ?
Je pense que c'est important de revenir sur les travaux de Jezabel, mais également de ses deux co-auteurs. Jezabel Coupet-Souberan, avec Augustin Cerciron et Pierre Delande. Pierre Delande est un nom de plume, mais en tout cas, tous les trois sont économistes. Augustin, en plus, est philosophe. Et ils ont une proposition d'émission de monnaie subvention, de monnaie volontaire, qu'ils appellent volontaire, qu'ils ont présenté dans un ouvrage qui s'appelle « Le pouvoir de la monnaie, transformer la monnaie pour transformer le monde ». Et donc, il y a d'abord tout un volet de ce livre qui est l'histoire de la monnaie et de comprendre que la monnaie n'a pas toujours eu le même visage, pas seulement parce qu'elle serait numérique et scripturale, mais comment est-ce qu'elle était organisée et que c'est aussi une manière de pouvoir investir dans le futur. Et un des grands enjeux autour des transitions, pour qu'elles soient justes socialement et qu'elles soient soutenables du point de vue environnemental, nous avons besoin de nous doter d'un nouvel outil qui serait cette monnaie volontaire qui pourrait être pilotée depuis les collectivités territoriales dans le cadre de ce que moi je vais appeler des caisses de redirection écologique et sociale. Et donc nous avons besoin de nous doter de tous les outils qui sont déjà à disposition. Je sais qu'une note a été rédigée dans le cadre des travaux de Jezabel en lien avec l'Institut Veblen sur comment est-ce que c'est a priori compatible avec le droit européen existant. Par contre, ça exige, comme je le disais tout à l'heure, que l'État s'en saisisse. Et aujourd'hui, l'État, ça n'est pas juste les ministères, le président de la République, ce sont aussi tous nos élus locaux, tous nos fonctionnaires, à la fois de la fonction d'État, mais aussi de la fonction publique territoriale. Nous avons des enjeux, en fait, à défendre. Et ce que nous appelons les communs, en fait, c'est tout simplement les conditions de notre subsistance pour manger, pour habiter, pour nos loisirs, pour nous déplacer, pour l'éducation, pour la santé. Et les communs sont littéralement une chose républicaine. Res publica, c'est vraiment la chose publique et ces communs sont des choses publiques que nous avons besoin d'administrer de manière qui pourrait paraître novatrice et moderne. Et en réalité, je le disais, les communs existent au moins depuis ce qu'on appelle le droit médiéval. Et ils démontrent non pas leur caractère désuet, mais leur caractère profondément durable, puisque ça a duré des siècles et des siècles, plus d'un millénaire. Et ils sont toujours d'actualité et comme une évidence répétée encore et encore, ils démontrent le caractère empirique et performatif de leurs propositions. Et donc, oui, je pense qu'il existe une voie autre qui permettrait ainsi d'imaginer que la monnaie puisse aussi être un commun et que nous puissions la gouverner d'une autre manière.
Quelles actions concrètes recommanderiez-vous aux citoyens et aux décideurs pour favoriser le développement des communs ?
Alors, je pense qu'on part parfois de loin en termes d'imaginaire. Donc, on a déjà besoin de s'investir de manière très concrète. Évidemment, puisque je suis dans le cadre de la promotion de ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, sachez que des expérimentations de démocratie alimentaire, de caisses alimentaires communes se développent partout en France. Il y en a aujourd'hui recensé de manière non exhaustive une centaine au moins. J'ai envie de dire les citoyennes et les citoyens, plutôt les appeler les mangeuses et les mangeurs, parce que sinon, en fait, on exclut les enfants, on exclut les personnes en situation parfois administrativement délicate. Et donc, ça permet vraiment de comprendre que autour de la question de l'alimentation, ça concerne tout le monde. Donc, il y a une place pour tout le monde. et de penser nos systèmes alimentaires comme des communs, quand on comprend que les systèmes alimentaires, c'est évidemment la production, mais aussi la transformation, la distribution, les lieux de consommation, que sont les restaurants, les cantines, tous les espaces partagés. En réalité, ça nous concerne toutes et tous de manière quotidienne, quasiment constante, même lorsqu'on n'y est pas directement attaché. Et ce qui est assez intéressant avec l'alimentation et dans un pays comme la France, en plus c'est un espace de gourmandise, de convivialité, de partage et de joie, la question des communs n'est pas du tout quelque chose de rébarbatif, de rédhibitoire. Pas du tout, on peut s'en saisir localement. Et autour de cette question, si on construit la connaissance de cause de ce que sont les systèmes alimentaires, il y a évidemment les enjeux de justice sociale, les enjeux environnementaux, que j'ai déjà cités plusieurs fois. Mais ces dernières années, en tout cas les deux dernières, on a beaucoup entendu parler de la souffrance de nos agriculteurs et de nos agricultrices, qui est réelle, évidente. Ils ont besoin d'être soutenus. Quand on sait quels impacts ils ont par leurs pratiques sur l'environnement et la santé humaine, eh bien ces impacts ne sont pas obligés d'être majoritairement que négatif. Nous avons aujourd'hui les savoirs techniques, pratiques, pour que cette agriculture soit vertueuse à la fois pour la santé humaine, mais aussi pour la santé de notre environnement. Et en vérité, ce sont tous les travailleurs et travailleuses des systèmes alimentaires qui sont en souffrance aujourd'hui. J'en veux pour preuve les personnes qui travaillent dans la grande distribution, depuis les caisses jusqu'aux magasiniers, jusqu'à la logistique, en passant par toutes les personnes qui travaillent dans les abattoirs, les usines de transformation de l'agro-industrie. Il y a d'autres moyens de le faire, et si on s'en saisit en fait et qu'on en fonde un commun, nous répondrions non seulement à ce droit à l'alimentation, évidemment aussi à la question environnementale, mais surtout à un enjeu de sécurité nationale qui est cette résilience alimentaire territorialisée. Aujourd'hui, nous savons que les territoires, en particulier les métropoles, ne sont pas du tout résilients. Il n'y a que 3 jours de stock d'alimentation. C'est un enjeu à risque. Recréer des usines de pâtes, de conserves de tomates, de conserves de fruits, eh bien, ça permet non seulement de répondre à ces différents enjeux, mais en plus de créer de la valeur économique, des métiers porteurs de sens, porteurs d'utilité sociale, de sentiment d'appartenance par rapport à un terroir. Et en réalité, la question des communs, elle n'aura jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Et on a besoin en plus de la penser de manière transnationale, parce que la résilience alimentaire de la France seule ne fait en vérité pas sens. On a besoin de la penser, évidemment, dans un pays comme le nôtre en lien avec l'Europe, mais également avec le monde. Et ça n'est pas une mauvaise nouvelle. Le négoce, le dialogue, le commerce international ont toujours été un vecteur de partage culturel, culinaire, d'imaginaire. Et cette diversité, c'est ce qui rend nos vies eh bien, désirables, tout simplement à vivre. Et donc, oui, nous, les habitantes et les habitants de ce beau pays qu'est la France peuvent se saisir des communs de manière très concrète avec cette question des systèmes alimentaires.
Merci beaucoup, Somak. Alors, j'ai une dernière question. Un livre, un film, un podcast, est-ce que vous auriez une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire ou alors un guide pour s'aventurer vers l'avenir ?
Alors, évidemment, j'ai déjà cité beaucoup d'autrices, d'auteurs tout du long de notre échange. Et en y réfléchissant, moi, je me disais qu'il y a quelqu'un qui a été très important dans le cadre de la construction de ma pensée, de ce rapport au monde complexe. Ce sont les travaux de Bernard Stiegler, qui était philosophe de la technique et qui décrivait ce qu'il appelle l'anti-anthropie ou la négantropie, comme étant la possibilité pour nos modes d'organisation humains de lutter contre l'entropie et donc d'être des systèmes moins mortifères, moins chaotiques, mieux vivants, dans ce qu'il appelait l'organologie générale. Ça n'est pas toujours simple, en fait, de lire Bernard. Par contre, il est très agréable à écouter. Et je me dis que c'est l'occasion de parler d'un autre de mes engagements. Je suis très investie. Je suis l'une des coprésidentes d'une association qui s'appelle Epoqué, qui poursuit les travaux de Bernard Stiegler. C'est la suite de ce qu'a été Ars Industrialis. Et Ça nous permet de penser la complexité du monde, de l'appréhender sans peur, ni optimisme, ni pessimisme, mais en étant combatif, lucide. Et c'est de là, en fait, qu'il y a la possibilité de penser un autre monde à partir de ce qui existe déjà. Donc, je conseillerais les travaux de Bernard Stiegler.
Merci. Alors, à travers votre témoignage, vous nous rappelez que les communs, ce ne sont pas qu'un concept, mais un levier puissant pour réinventer ensemble nos façons de prendre soin de nous, des autres et du monde. Merci, Somak.
Merci. Je me permettrai peut-être juste un dernier mot, très rapide. Quand on comprend ce que sont les contextes actuels, à la fois sociaux et environnementaux, nous sommes en train de créer structurellement les conditions de la guerre. Pensez les communs, la résilience alimentaire, nos interdépendances, l'impératif d'autonomie depuis les territoires, c'est de construire ensemble les conditions de la paix. Et j'ai envie de dire que c'est ce qui, moi, me mobilise au quotidien dans le cadre de mes travaux à la fois académiques et pratiques. Et il me semble qu'il n'y a pas de projet plus intéressant que de dire que celles et ceux qui veulent la paix construisent les conditions de la paix. Et c'est juste avec ce mot-là que j'avais envie de terminer ce témoignage. Merci.
Merci. Merci beaucoup, Sarah.